Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chez vous, chers auditeurs de Radio Okapi et fidèles du magazine Bana Okapi. Aujourd'hui, nous abordons une question qui touche de nombreux parents. La succion du pouce ou de doigt chez les enfants. Si votre enfant continue de sucer son pouce et son index après l'âge de 4 ans, il est naturel de vous interroger et de chercher des solutions. Dans ce nouveau numéro de Bana Okapi, nous allons explorer en profondeur ce comportement courant mais parfois préoccupant. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi les enfants sucent leur pouce ou leur doigt, examiner les conséquences potentielles de cette habitude, identifier les signes qui doivent vous alerter et surtout vous proposer des astuces et des conseils d'experts pour aider votre enfant à se libérer de cette habitude en douceur et avec bienveillance. Il est important de rappeler que la succion du pouce n'est généralement pas considérée comme une pathologie en soi. Cependant, il est essentiel de comprendre les raisons qui se cachent derrière ce comportement et d'accompagner votre enfant de manière adaptée. Restez avec nous pour un éclairage complet et de conseils pratiques qui vous aideront à accompagner votre enfant dans cette étape de son développement. Je suis Sarah Soumbela à la présentation de ce magazine. La technique est assurée par Mimi Kindo. Christian Mapendanoyakris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki alors que nous lançons ce magazine.
Bana Okapi.
Dès la vie intra-utérine, de nombreux bébés commencent à sucer leurs pouces ou leurs doigts. Ce geste instinctif leur permet non seulement de découvrir leur corps, mais surtout de s'apaiser face à l'inconnu. Dans le premier mois de la vie, la succion joue un rôle fondamental. Elle est liée à l'alimentation, à la recherche de réconfort. C'est pourquoi de nombreux nourrissons adoptent cette habitude pour s'endormir ou gérer des émotions comme la fatigue, l'ennui ou l'anxiété. Jusqu'à quand est-ce normal? Nous faisons le point avec Greta Lulendo.
Selon les spécialistes cités par BBC, la succion du pouce ou des doigts est généralement inoffensive jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans. Avant cet âge, il ne faut donc pas s'inquiéter. L'enfant utilise cette habitude comme un moyen d'auto-réconfort, un peu comme certains ont besoin d'un doudou. Toutefois, au-delà de cet âge, une succion persistante peut entraîner des conséquences sur la croissance bucco-dentaire et le développement du langage. Lorsque la succion des doigts se prolonge après 4 à 5 ans, elle peut entraîner des déformations du palais et un mauvais alignement des dents. Plus souvent, on observe une béance dentaire antérieure où les incisives supérieures sont poussées vers l'avant et ne touchent plus les dents du bas. Ces troubles peuvent nécessiter un traitement orthodontique long et coûteux. Par ailleurs, les orthophonistes mettent en garde contre des répercussions sur l'apprentissage du langage. La succion prolongée peut altérer la position de la langue et entraîner des difficultés de prononciation, notamment sur les sons « se » et « ze ». Comment aider un enfant à arrêter? Pour les parents, l'enjeu est de trouver un équilibre entre patience et accompagnement bienveillant. Il est important d'éviter toute pression excessive, tout en restant attentif aux signes d'un besoin persistant d'apaisement qui pourrait traduire une anxiété sous-jacente. Voici quelques pistes. Encourager des alternatives, proposer un doudou, un jouet ou une activité manuelle pour occuper les mains. Valoriser le moment sans succion, féliciter et encourager l'enfant lorsqu'il ne suce pas son pouce. Utiliser des renforcements positifs, mettre en place un système de petites récompenses symboliques. Identifier les déclencheurs, observer dans quelle situation l'enfant a le plus tendance à sucer son pouce, fatigue, stress, ennui et proposer des solutions alternatives. Consulter un professionnel en cas de difficultés persistantes entre 5 à 6 ans, une consultation avec un dentiste ou un orthophoniste peut être utile pour éviter des complications futures. En résumé, la succion de doigts est une habitude rassurante et naturelle dans la petite enfance. Cependant, il est important de surveiller son évolution et d'accompagner l'enfant avec douceur pour l'aider à trouver d'autres sources de réconfort.
Sucer les doigts, c'est aussi doux que boire du lait. Voilà pourquoi j'ai du mal à m'en débarrasser. C'est mon sang de Grace Mugisha, 7 ans, élève en 4e primaire à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Malgré les tentatives de sa mère pour l'en dissuader, cette habitude persiste ancrée dans son quotidien. Grace, cependant, garde espoir. Elle compte bien se libérer de cette manie avant d'entrer au secondaire. Son témoignage fait écho à celui de nombreux enfants de son âge, mais aussi à celui de Nathanaël Kinyongo, élève de 3e année. Nathanaël, lui, a réussi à vaincre cette habitude. Fort de son expérience, il lance un appel à ses camarades. « J'ai arrêté, vous pouvez les faire aussi. » Suivez ces enfants au micro de Guylaine Kassassia.
Grâce Mugisha, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu étudies où?
La complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
En quantième?
4A.
Alors, Grâce Mugisha, pourquoi tu suces le doigt?
C'est trop doux.
C'est vrai?
Oui.
Comme quoi?
Comme le lait.
C'est pourquoi tu continues toujours à le sucer?
Oui.
Même en classe?
Oui.
Est-ce que ça ne t'empêche pas de suivre bien l'enseignant?
Ça m'empêche.
Ça t'empêche?
Oui.
Et souvent, l'enseignant te punit à cause de ça?
Il me frappe.
Et quand il te frappe?
Je laisse de sucer.
Il t'arrive d'avoir envie d'arrêter?
Je vais toujours sucer. Il ne m'arrive jamais. Le goût de cesser, de sucer les doigts.
Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Pourquoi tu n'arrives pas à cesser?
Je ne sais pas.
Ou bien parce que c'est doux?
C'est doux.
Tu es content quand tu fais ça?
Oui. Je suis content quand je fais ça.
C'est vrai. Ça ne te gêne presque vraiment pas?
Oui, ça ne me gêne pas. J'aime ça à l'aise quand je suce les doigts.
Et que disent tes parents quand tu continues à sucer? Que disent tes parents?
Maman me frappe. Mais papa ne me frappe pas.
Et quand maman te frappe, qu'est-ce que tu fais? Tu sais?
Oui. Quand je suis à côté de maman, je ne peux plus sucer. Quand je suis à côté de papa, je vais sucer.
Papa lui ne dit rien?
Papa ne dit rien. Je me sens à l'aise quand je suis à côté de papa.
Et alors tes amis ne te provoquent pas?
Non.
C'est vrai?
Oui.
Et s'ils te provoquaient, tu vas faire quoi?
J'ai peur de le faire.
Et donc tu suces mais quand, même quand tu es avec tes amis?
Oui.
Est-ce que tu ne sais pas que sur le doigt il y a des microbes?
Je sais.
Alors pourquoi tu suces, tu continues à sucer?
Je ne sais pas.
Est-ce que tu te laves d'abord les mains avant de les sucer?
Oui. Non. Avec les savons. Ouais.
Et quand tu es en train de jouer avec les autres, tu vas d'abord te laver avant de les sucer?
Oui.
Donc tu ne les suces pas à chaque moment?
Non, je ne suce pas à chaque moment.
Au moins par jour, tu peux sucer combien de fois?
4 fois.
Seulement?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu peux dire aussi à d'autres enfants qui sucent les doigts, comme toi?
Je vais me dire de laisser de sucer les doigts.
Et toi, tu vas te laisser?
Je vais laisser.
Tu vas laisser. Parce que tu es en train de grandir.
Oui.
Tu vas continuer à sucer jusqu'à quand? Dis-moi.
Jusqu'à 9 ans, puis je laisse.
C'est vrai?
Oui.
Aujourd'hui, tu as combien d'années?
7 ans.
Donc, tu as encore 2 ans en train de sucer?
Oui.
Tu es à 4e. Et en 4e, donc jusqu'à 6e, tu seras toujours en train de sucer.
Je vais laisser en secondaire parce que c'est doux comme le lait.
Tu ne te gênes pas?
Non, je ne me gêne pas.
Ça va, merci beaucoup, Grâce Mugisha.
Merci.
Monsieur, bonjour.
Et bonjour.
Tu peux nous dire, pourquoi tu suçais le doigt?
Je ne sais même pas ce que c'est, pourquoi.
Est-ce qu'il t'arrivait d'avoir envie d'arrêter? Tu avais le courage d'arrêter?
Oui, j'en avais envie d'arrêter.
Et tu as déjà arrêté, pourquoi?
Je ne sais pas.
Est-ce que ça t'a gêné de sucer le doigt?
Ça m'a gêné de sucer le doigt.
Et tu as sucé jusqu'à quantième?
Quand j'étais à 3e.
Oui. Et tu as sucé à 3e?
J'ai sucé à 3e.
Pourquoi?
Parce que je me suis trouvé que j'ai déjà grandi.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que tes amis ne se moquaient pas de toi quand tu suçais?
Mes amis ne se moquaient pas de moi parce que j'ai sucé le doigt.
Tu pouvais les frapper, si c'est bon que toi?
Je pouvais les frapper.
C'est vrai?
Oui.
Tu as la force?
Oui.
Que disaient maman et papa quand tu suçais le doigt?
Les parents ne disaient rien. J'avais arrêté de moi-même.
Tes amis ne te provoquaient pas?
Mes amis ne me provoquaient pas.
Et en classe?
La première, deuxième, la seconde ne me frappait pas.
Est-ce que quand tu suçais le doigt, est-ce que tu avais le temps de suivre bien l'enseignant?
Quand je suçais le doigt, je n'avais pas le temps de suivre l'enseignant. J'étais souvent distrait en train de sucer.
C'était quel doigt?
Je suçais souvent les pouces.
Et aujourd'hui, donc, tu as arrêté?
Aujourd'hui, j'ai arrêté carrément.
Qu'est-ce que tu dis aussi à d'autres enfants qui sucent jusque-là?
À d'autres enfants qui se gênent, je leur demande d'arrêter aussi comme moi.
Après avoir entendu les voix des enfants, tournons-nous vers celles des parents. Mères et pères de famille nous ont également partagé leur expérience, souvent teintée d'interrogations et des tentatives infructueuses. Mayoka Mark, père d'un enfant qui suce son doigt, exprime un sentiment d'impuissance. Rien ne sert d'empêcher un enfant de sucer son doigt, surtout s'il n'y arrive pas. J'ai tout essayé, mais rien n'y fait. Son témoignage reflète les désarrois des nombreux parents confrontés à cette habitude ténace. À l'inverse, une mère de famille raconte avec soulagement comment son enfant a abandonné cette manie de lui-même vers l'âge de 2 ans. Ces récits contrastés soulignent la diversité des expériences et l'absence de solutions uniques. Cependant, une préoccupation commune émerge. Les conséquences liées aux maladies de mains sales. Les parents s'inquiètent des risques sanitaires potentiels liés à cette habitude. Guylaine Kassassia a recueilli leurs témoignages.
Bonjour.
Bonjour.
Avez-vous un enfant qui suce le doigt?
Bien sûr, c'était un enfant âgé de 4 ans. Alors jusqu'à preuve du contraire, il est en train de sucer ses doigts. Alors c'est un phénomène qui est tellement inné.
Moi, j'ai remarqué que même il a commencé à sucer son doigt dès l'âge de sa sortie de mon ventre. C'est là qu'il a eu le goût de son doigt. Une fois sorti, moi étant sur le lit avec les infirmiers, j'ai remarqué qu'il cherchait à prendre les seins. Et moi, j'étais encore sur le lit. Et c'est par là qu'il a développé ces sens-là. Il a continué jusqu'à l'âge de 2 ans, je peux le dire, jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, il continuait à prendre son doigt.
Et maintenant, comment avez-vous vécu cette situation quand vous avez vu juste au début?
Juste au début, d'abord, comme c'est inné, sa maman avait tendance et surtout de la laisser. Elle va vaquer à ses préoccupations. Et c'est peu après, lorsque l'enfant est en train de pleurer, on voit souvent il a tendance à sucer ses doigts. Et c'est juste quand il suce ses doigts, c'est maintenant que l'enfant ne peut pas encore pleurer.
Et comme tout parent, cela m'a dérogé, ça m'inquiétait parce qu'il était un peu distrait. Il avait tendance à être un peu dans la distraction de rêver, comme je peux dire. L'enfant n'était pas du tout là. À chaque fois qu'il avait son doigt dans sa bouche, ça faisait tendance. Il était ailleurs, quoi.
Et quand vous avez constaté que peut-être l'enfant est calme, il ne pleure pas, vous aviez pensé que c'était normal, hein, parce que d'autres enfants, quand maman n'est pas là, ils doivent beaucoup pleurer.
Bien sûr que oui. Alors, c'est lorsqu'il est en train de grandir, on verra que la situation ne se calme pas. Il continue toujours à sucer ses doigts. Alors, jusque là, on se pose la question, quand est-ce que cet enfant aura vraiment cette tendance de laisser à sucer ses doigts?
Avez-vous consulté un médecin pour essayer peut-être de calmer la situation?
Jusque là, non. La thérapeutie, vraiment, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut nous aider à bien orienter s'il va laisser assister ses doigts jusqu'à maintenant. Donc, on essaie quoi faire.
Parce que je n'ai pas vraiment fourni assez d'efforts personnellement pour mon enfant.
Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec cet enfant?
Les difficultés sont multiples. Hein. Souvent, lorsqu'il est en train de jouer avec ses amis, vous savez, les enfants ont tendance de jouer par terre. Des fois, il est en train de jouer dans la boue. Ici, ses doigts, vous voyez, c'est la porte de malaria directement. On n'a pas vraiment quoi faire compte tenu de tout ça. Parfois, on lui donne à manger, il scie ses doigts. Alors, c'est une anomalie. Autre difficulté, souvent, lorsqu'il est à l'école, parfois, lorsque son enseignant est en train d'enseigner, lui, il ne se concentre pas à ce que son enseignant est en train de parler, parce que souvent, il a ses doigts là-bas. Nous, on sait que peut-être il a besoin de trouver quelque chose qui peut vouloir lui aider, mais il est emporté par ses doigts. L'enseignant va enseigner, mais parfois, il n'est pas capable à suivre conformément l'enseignement de son éducateur.
Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour cet enfant? Est-ce que vous avez essayé quand même de trouver certaines solutions?
Pour que l'enfant puisse arrêter de scier son doigt, oui, j'ai fourni en quelque sorte des efforts, parce qu'à chaque fois, lorsqu'il avait déjà, je crois, 2 ans, je lui parlais et je lui taquinais, arrête de scier les doigts, tes amis qui sont là n'ont pas de doigts dans leur bouche, il n'y a que toi. Et l'enfant avait tendance d'avoir honte. Il enlevait son doigt, parce que lui avait 2 doigts dans la bouche. Il enlevait ses 2 doigts de sa bouche pour plus tard répondre avec ses aptitudes, mais en cachette cette fois-ci.
On a essayé, parfois, on met sur ses doigts là-bas, on met des choses qui peuvent laisser à ce qu'il ne puisse pas sucer ses doigts, comme par exemple du piment, des choses amères comme la quinine, aloe, tout ça on emploie, mais l'enfant ne parvient pas vraiment à laisser de sucer ses doigts. Mais des gants, on achète aussi des gants pour vouloir chercher comment arrêter, mais ça ne convient pas vraiment.
Ils les enlèvent, hein, ou bien ils sucent même le doigt avec du piment?
Ils enlèvent, mais lorsqu'ils sucent avec le piment, on a peur qu'ils puissent pas devenir malades. On enlève, on lave ses mains, ils continuent encore.
Et parmi les solutions, est-ce que vous ne lui donnez pas, par exemple, des bonbons, autre chose à sucer pour qu'il oublie?
Tout ça, on a souvent donné, mais ça ne parvient pas vraiment à arrêter.
Et par exemple, si vous pouvez avoir encore un autre enfant dans ce sens, qu'est-ce que vous allez faire avant que ça ne soit pas tard? Parce que vous avez déjà vécu la situation avec celui que vous avez aujourd'hui.
Voilà. Je l'ignore complètement, parce que ça, chaque enfant a sa façon de réagir et de faire des choses. C'est pas tout enfant qui scie.
Jusqu'à là, vraiment, nous n'avons pas quoi faire, hein, compte tenu de cette situation.
Pensez-vous qu'humilier son enfant peut l'aider à arrêter de sucer le doigt, par exemple devant ses amis?
Souvent, on a tendance à lui porter conseil, à chamailler, mais il ne parvient pas toujours à laisser. Comme c'est inné, donc c'est tout à fait difficile.
Alors peut-être pour finir, hein, quel conseil donneriez-vous aux autres parents et enfants?
Et les conseils que je donnerais aux parents qui ont des enfants qui sucent le doigt, c'est d'aller mollo, de ne pas être si brutal, parce qu'il y a des parents qui ne supportent pas, qui mettent la pression en l'enfant, qui ont fait un sujet de blâmerie, donc ça n'a pas de sens. L'enfant de lui-même aussi va fournir des efforts, mais faites savoir tout justement à l'enfant les conséquences et lui taquiner avec amour.
Les conseils que je peux donner aux parents, c'est surtout être clairvoyant lorsque son enfant a cette habitude, parce que ça nous amène beaucoup de maux. Rattraper de la maladie, c'est très facile à cet enfant. Et lorsqu'il est dans la foule là où il joue, cela crée vraiment des zizanies avec ses amis. Il a tendance à se cogner parce qu'on est en train de lui chamailler. Ça ne porte pas vraiment de bonnes relations avec lui.
Et les enfants? Et aux autres enfants?
Et aux autres enfants. Donc, et cela pour lui humilier, donc ça ne lui porte pas vraiment de la bonne relation affective avec ses amis.
Et donc, à d'autres enfants, de l'accepter tel qu'il est.
Au fur et à mesure, sont ses amis, on lui accepte avec ce caractère-là. Mais lorsqu'il arrive un moment donné, quand les enfants se tirent et entrent, alors cet enfant est toujours marginalisé.
Mayoka Marc, nous vous remercions.
Merci madame, et je vous remercie aussi.
Les amis de Bana Okapi, nous nous avançons petit à petit. Nous venons de mettre fin à la première manche de Bana Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour fidèles auditeurs de Radio Okapi et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous poursuivons notre exploration du sujet sur la suction du doigt chez les enfants. Si cette habitude n'est pas considérée comme une pathologie en soi, elle peut néanmoins entraîner des conséquences sur le développement bucco-dentaire de l'enfant. La pression exercée sur le palais et les mâchoires peut à terme entraîner des problèmes au niveau de la mâchoire supérieure, de la langue, de la fermeture de la bouche et de l'alignement des dents. Dans cette seconde partie de notre émission, nous allons approfondir les causes et les conséquences de la suction du doigt grâce à l'éclairage de nos experts. Ils nous livreront également des astuces et des conseils pratiques pour aider les enfants à se libérer de cette habitude en douceur. Restez à l'écoute car nous allons vous donner toutes les clés pour comprendre et accompagner votre enfant. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sumbela. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendanoya Chris, avec la mise en onde de Mimi Kindo et la supervision de Jean-Marc Matouaki, Mofilele Dijano.
Bana Okapi.
La suction du doigt est un comportement courant chez les jeunes enfants. Ce réflexe naturel leur apporte réconfort et apaisement, les aidant à gérer leurs émotions et à s'endormir. Généralement, cette habitude diminue progressivement entre 2 et 4 ans. Cependant, au-delà de cet âge, il est important de s'interroger. Le docteur Placide Kayombo, coordonnateur régional de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable dans le Grand Kasaï, souligne l'importance de consulter un pédiatre pour évaluer la situation et envisager des solutions adaptées. Kelvin Bayeni s'est entretenu avec lui pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les solutions face à la suction du doigt prolongée.
Docteur Placide Kayombo, bonjour.
Oui, bonjour, cher Kelvin.
Vous êtes coordonnateur régional de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable dans les Grands Kasaï. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi les enfants sucent-ils leurs doigts et c'est un comportement normal?
C'est un comportement déjà normal pour les enfants parce que le fait que les enfants sucent leurs doigts, en particulier les nourrissons et les tout-petits, cela peut être observé souvent dans le premier mois de vie pour quelques raisons. La première raison, c'est d'abord un état de confort. D'ailleurs, avant même de parler de l'état de confort, il faut se dire que quand l'enfant est né, le médecin va rechercher ses réflexes de succion. Donc, c'est un réflexe qui permet la nutrition de l'enfant dès la naissance. Alors, l'enfant qui naît sans ses réflexes, vous allez comprendre qu'il est difficile pour cet enfant pour s'alimenter. Deuxième raison, c'est l'exploration sensorielle. Mais c'est un moyen aussi pour les enfants de se calmer lorsqu'ils sont anxieux, frustrés ou stressés.
À partir de quel âge faut-il s'inquiéter?
Il faut se dire qu'à partir des 3 à 4 ans, il y a déjà une inquiétude parce que c'est déjà un âge que l'enfant est à l'âge de scolarité. Mais si l'enfant continue à sucer le bois, c'est un problème qu'il faut voir de près. Donc, à partir des 3-4 ans, c'est déjà un comportement qui doit disparaître dans les chefs d'enfants.
Et quelles sont les conséquences médicales possibles de cette habitude?
Si la suction déglutition persiste au-delà de certaines années que nous avons dit 3-4 ans, ça peut entraîner plusieurs conséquences qui sont d'ordre médical et physique sur le développement de l'enfant. Nous pouvons citer d'une manière principale. Il y a par exemple les problèmes dentaires. Donc vous allez voir que cet enfant, il suce d'une manière fréquente. Il exerce une pression constante sur ses dents et les gencives, ce qui peut affecter le développement de ses problèmes dentaires. Donc, vous allez voir qu'il y a même le développement anormal des dents. Il y a même les problèmes d'occlusion dentaire. Quand on parle d'occlusion, c'est pour dire que cela se réfère à la manière dont les dents du haut et du bas se rencontrent lorsque la bouche est fermée. Mais la scission prolongée peut entraîner une occlusion ouverte où les dents supérieures et inférieures ne se rencontrent pas correctement. Ça peut même créer un problème de mastication. Comment l'enfant peut mâcher et même affecter la prononciation. Vous allez voir que l'enfant a du mal à prononcer certains sons, tout simplement parce que il a traîné avec son problème de scission qui a affecté les problèmes dentaires. Autre conséquence directe concernant les conséquences dentaires, c'est les problèmes de développement de la mâchoire. Ça va également de pair, expliquant cette scission prolongée. Il y a aussi les problèmes oraux du langage, comme on parle de phonation de l'enfant. Donc, bien que c'est moins fréquent, mais il y a quand même quelques risques à ça, problème de prononciation. Vous allez voir, les enfants qui continuent de sucer leurs doigts, après un certain âge, peuvent présenter des difficultés à prononcer certains sons, car la position de la langue et des dents est modifiée. Peut-être le dernier problème ou conséquence que je peux relever, c'est les problèmes psychologiques. Parce que même si le problème de scission des doigts est souvent lié au besoin de réconfort, mais elle peut parfois être un signe de stress ou d'anxiété. Donc, d'habitude, si cela persiste, l'enfant peut devenir dépendant de cette action pour faire face à ses émotions, ce qui peut nuire même sa gestion émotionnelle à mesure qu'il est en train de grandir.
Alors, au regard de toutes ces conséquences, docteur, quand faut-il consulter alors un médecin?
Nous avons dit que cela n'est pas dépassé 3 à 4 ans. Mais autour des 3-4 ans, les parents doivent déjà aider leur enfant. Déjà, par exemple, quand l'enfant met les doigts dans la bouche, c'est déjà un enfant qui communique. On lui dit, Placide, enlève tes doigts dans la bouche. On peut l'accompagner avec affection. Mais quand consulter le médecin, quand ceci persiste au-delà de cet âge, malgré tout ce que le parent a pu faire, qui n'a pas marché, il faut voir un personnel soignant, il faut voir le pédiatre qui pourront orienter où est-ce qu'on peut aider l'enfant pour laisser ses comportements.
Alors, quel conseil donner aux parents pour accompagner leurs enfants, docteur?
Les parents, en tout cas, c'est le premier médecin de l'enfant. Donc, les parents, comme étant le premier médecin, doivent d'abord comprendre que chez les jeunes enfants, surtout pendant les premières années, donc moins de 3 ans, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un mécanisme naturel d'apaisement. On parlait que c'est un réflexe qui permet l'alimentation chez l'enfant. Mais pour les parents, s'ils ont un enfant de plus d'années, de plus de 5 ans, 6 ans, qui continue à faire cela, et c'est l'information d'abord, comme on est en train de le faire avec vous. C'est informer le parent, surtout sur le stade de développement de l'enfant. Parce que j'ai déjà vu moi-même, une maman qui a son enfant de 2 ans qui met les doigts dans sa bouche, il tape l'enfant. Pourquoi tu fais ceci? Par moment, n'a pas aidé son enfant parce qu'il l'a tapé. Mais pourtant, il faut l'accompagner avec amour parce que c'est un comportement que l'enfant le fait sans le savoir. Dès que le parent a cette information, il ne veut pas stigmatiser le comportement. Il faut plutôt offrir des moyens alternatifs aux enfants. De manière générale, c'est demander aux parents de mieux étudier, de mieux comprendre leur enfant. C'est dire que c'est un besoin naturel, mais bien les accompagner, ça peut les aider à les laisser avec amour. Sinon, si on coupe court vite à ce comportement du fait que l'enfant veut se soulager d'un stress, d'une frustration, on va plutôt plus développer les comportements antisocial de cet enfant qui dit par exemple que non, mes parents ne m'aiment pas, mes frères ne m'aiment pas, et pourtant, les parents sont en train d'aider l'enfant à laisser certains comportements.
Docteur Placide Kayombo, nous vous remercions.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi qui vous propose le magazine Bana Okapi, un programme pour les jeunes, les plus jeunes et leurs parents. Nous parlons justement de la scission du doigt. La scission digitale, cette habitude réconfortante chez les jeunes enfants, soulève des questions chez de nombreux parents. Faut-il s'inquiéter si elle persiste au-delà d'un certain âge? Quelles sont les conséquences sur le développement de la mâchoire de l'enfant? Le docteur Achard Tamboué, médecin dentiste, nous apporte son éclairage. Selon lui, la scission digitale prolongée peut avoir des effets nuisibles sur la croissance de la mâchoire dentaire, la déglutition infantile et l'occlusion dentaire. Pour aider les enfants à se libérer de cette habitude, il propose une approche psychologique, un suivi attentif de leurs habitudes et, si nécessaire, une consultation chez un spécialiste dentaire. Le docteur Achard Tamboué s'est entretenu avec Pascal Tinamoula.
Docteur Achard, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Pour commencer, vous pouvez vous présenter aux auditeurs de la Radio Okapi.
Je suis docteur Achard Tamboué Kizangula. Je suis dentiste de formation. J'ai terminé à l'université de Kinshasa. Et j'exerce dans un cabinet privé pour l'instant, qui est situé sur avenue de la Justice, 44, commune de la Gombe.
Voilà, docteur Achard, on observe assez souvent chez les comportements des enfants, en la scission des dents, une pratique consiste pour les enfants à utiliser leurs pouces et parfois même leurs index et majeurs. On ne sait pas si c'est pour compenser la carence en allaitement. Déjà, on va commencer par là. Est-ce que c'est à ça que ça consiste lorsqu'un enfant scisse un doigt, généralement un pouce ou un index?
Bon, normalement, la succion digitale commence déjà dès la vie intra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre, quand l'enfant est formé, quand il est complètement formé. Il est possible que l'enfant suce les doigts depuis là-bas. C'est vrai, des théories scientifiques qui disent que c'est déjà les premières manifestations de la vie sexuelle d'un enfant, normalement. Donc ce n'est pas toujours pour une carence d'allaitement ou bien un sevrage beaucoup trop tôt, mais aussi, c'est quelque chose, un réflexe assez naturel que l'enfant a déjà depuis le ventre de sa mère.
On n'a pas besoin de s'inquiéter lorsque l'enfant suce les dents.
Non, c'est tout naturel.
Alors, lorsque l'enfant il est né, il continue à faire cette pratique malgré tout. Est-ce que ça a des conséquences sur le développement de la mâchoire de l'enfant?
Oui, ça a des conséquences beaucoup trop néfastes. D'ailleurs, quand c'est beaucoup trop persistant, les conséquences vont au niveau de la mâchoire et jusqu'aux dents. Au niveau de la mâchoire, par exemple, la succion, par exemple, du pouce, comme vous l'avez dit, ça peut déformer la croissance de la mâchoire supérieure, par exemple. Au lieu que ça soit assez vaste, ça sera rétréci. Or, quand c'est rétréci, les dents qui doivent sortir au niveau de cette mâchoire-là n'auront pas assez des places. C'est comme ça que vous voyez des gens avec des dents un peu classées en désordre, qu'on appelle dans notre jargon des dysharmonies dentaux ou maxillaires. Ce sont déjà des conséquences au niveau de ça. Et par rapport à cette succion digitale, si c'est trop persistant, ça peut faire que la déglutition infantile. Parce que les enfants, au départ, ils ne déglutissent pas comme nous. Si vous pouvez faire un exercice vous-même, si vous voulez déglutir, vous verrez que votre langue va être plaquée au niveau du palais. Mais la déglutition infantile, c'est que l'enfant, quand il déglutit, la langue reste dans le plancher. Et c'est déjà mal parce que ça empêche la mâchoire inférieure de se développer comme il faut. Et ça amène des répercussions sur les dents. Vous verrez que les dents seront en mauvaise position, soit il n'y aura pas une bonne occlusion. L'occlusion, c'est un peu comme l'emboîtement des dents supérieures et inférieures. Il y a un état normal d'emboîtement. Alors, quand ces dents-là sont déjà sorties de manière mal positionnée, ça a de l'impact sur cette occlusion-là, où vous verrez des dents, des gens avec des béances, des dents, il ne sait pas fermer les dents antérieures, c'est-à-dire les dents de devant, les incisifs et autres. Donc, il y a plusieurs conséquences comme ça.
La succion des dents, avec toutes les conséquences que venait d'évoquer, quel est le moment que vous pensez puis c'est très plus optimal pour intervenir? Est-ce qu'il faut attendre que l'enfant grandisse ou bien déjà dès les bas âges il faut déjà commencer à intervenir?
En tout cas, je pense que le moment de l'intervention, généralement, il est d'abord conseillé en tant que dentiste que dès que l'enfant a des dents, d'aller consulter. Même s'il n'a pas d'abord de problème de succion digitale. Déjà, les dents apparaissent à partir de 6 mois. Donc, il est déjà conseillé d'aller voir un dentiste pour cela. Mais quand vous remarquez que la succion digitale persiste, parce qu'il y a un moment où l'enfant peut être en train de sucer, mais quand vous sentez que ça dépasse, quand il est déjà jusqu'à 3 ans et qu'il continue de sucer les doigts, en tout cas, vous devez l'amener déjà pour qu'on trouve des solutions pour ça.
Déjà, parce que vous parlez d'intervention, qu'est-ce qu'il faut faire si la succion digitale intervient durant la période de la pose dentaire lorsque l'enfant commence à avoir de petites dents? Qu'est-ce qu'il faut faire à cette période?
Alors, l'idéal, c'est de voir un spécialiste, un dentiste, qui pourra vous accompagner. Parce que quand l'enfant commence à sucer le doigt, ça ne veut pas dire que dès qu'il a commencé, il y aura des répercussions. Parce que les répercussions sur les dents, c'est en fonction du type des succions d'abord, de la fréquence des succions, et aussi de l'intensité qu'il place avec les doigts et la durée du temps. Un enfant qui suce les doigts pendant une semaine, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur qu'il y ait des désagréments après. Donc c'est en fonction de ces facteurs-là. Or ces facteurs-là, ce n'est qu'un spécialiste qui est capable de vous dire que voilà, par rapport au cas de votre enfant, voilà ce qu'il faut faire. Mais aussi, je pense qu'une bonne surveillance de l'enfant est très nécessaire. Quand ça intervient en ce moment-là, regardez comment se comportent ses dents. Si vous sentez déjà qu'il y a une tendance à changer de position, allez voir un spécialiste, il aura toutes les solutions possibles pour prendre en charge votre enfant.
Alors, vous avez parlé de toutes les conséquences possibles et lorsque l'enfant continue à observer une succion digitale, quelles sont les solutions possibles pour limiter les dégâts possibles, comme vous les avez tous évoqués?
Comme solution, je proposerai deux approches. Premièrement, une approche psychologique parce que les enfants, ça dépend de l'âge. Un enfant, par exemple, de 3 ans peut déjà avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, il se sent yaya. On peut déjà jouer sur la psychologie de l'enfant pour lui dire, tu sais, les doigts, ce n'est pas pour les yaya. Les yaya doivent arrêter. Ça peut déjà travailler l'enfant pour dire, ok, comme je suis yaya, je dois arrêter. Et aussi, vous pouvez toujours, s'il a peut-être commencé l'école ou s'il a des amis, travailler sur le fait de lui dire que non, les amis avec qui tu es ne font pas ça. Ils risquent de se moquer de toi. C'est ta trait psychologique peut déjà faire en sorte que l'enfant lui-même peut déjà changer ce comportement. Mais si ce n'est pas le cas, alors il y a des appareils chez le dentiste, quand vous arrivez, il y a des appareils qui peuvent permettre à ce que l'enfant arrête de sucer les doigts. Il y a par exemple de grilles vestibulaires qui peuvent empêcher l'enfant de sucer son doigt. Donc il y a comme ça des appareils, ça dépend maintenant des types de succion. Est-ce que c'est un pouce? Est-ce que c'est le majeur? Est-ce que c'est le majeur et l'index en même temps? Donc tout ça, ça dépend du type de succion qu'a votre enfant. Et votre dentiste, quand il va vous consulter, il saura quel est l'appareil adapté ou peut-être des approches, même en dehors des appareils, qui peuvent permettre à ce que cela s'arrête.
Alors est-ce qu'il y a une méthodologie ou bien une pratique possible pour les enfants qui, malgré les efforts des parents, bon, ici je parle pour le compte des parents, surtout se trouvant dans les milieux ruraux, qui n'ont pas accès à toutes les informations, mais grâce à cette émission et votre clarification en euros, il y a des enfants qui grandissent avec ces pratiques-là, ouais. Ils continuent à en sucer et même jusqu'à leur dizaine d'âge. Des parents qui sont au village et qui n'ont pas accès à toutes les spécialisations, ouais. Quelles sont les mesures à leur proposer?
Alors,
parce que pour... parfois, quand nous avons des enfants comme ça, c'est qu'on fait, quand ils dorment, on met un peu de piment.
Un peu de piment et tout ça.
Quand il va sucer, il va avoir des restrictions à le faire. Ou bien carrément, quand il commence la succion digitale, on tape la main. Est-ce que ça peut pallier?
Oui, ça peut pallier, mais ça dépend du type d'enfant. Ce que moi, je proposerais, c'est comme un enfant qui suce les doigts, il ne le suce pas depuis le matin jusqu'au soir. Il a des moments dans la journée où il le fait. Alors, vous pouvez être assez astucieux dans le sens où les moments où vous savez qu'il a l'habitude de sucer en ce moment-là, lui proposer une autre activité à faire. Parce que très souvent, les enfants sucent le doigt parce qu'ils sont dans l'ennui, il manque à faire. Alors si pendant, prenons l'exemple qu'il a l'habitude de le sucer des 10h à 12h, vous lui proposez une activité qui lui prendra toute sa tête pour qu'il ne pense pas à sucer le doigt. Ça peut être efficace pour qu'il l'arrête.
Voilà, d'autres conseils pour aider ses parents et leurs enfants à prévenir les problèmes dentaires suite à la problématique des scissions digitales.
Alors, la meilleure manière de prévenir, c'est déjà avoir une bonne surveillance, comme je disais tout à l'heure. La surveillance vous permet de voir que cet enfant, il suce les doigts comme les autres, c'est vrai, mais là, ça commence à dépasser par rapport à l'âge, comme je vous l'ai dit, que ça ne doit pas dépasser 3 ans. Et puis, un autre conseil, c'est, en tout cas, l'idéal, c'est celui qui est conseillé par même l'Organisation mondiale de la santé, celui de consulter un dentiste dès que l'enfant a des dents. Même s'il ne suce pas le doigt, même s'il n'y a pas un tout petit problème dentaire, mais dès qu'il a des dents, qu'il ait déjà un accompagnement d'un dentiste. Ça permet que déjà le dentiste peut détecter à l'avance le problème que l'enfant pourrait avoir dans les années qui viennent et déjà mettre en place un traitement ou encore des mesures qui permettent de protéger l'enfant.
Pour finir, docteur, tous les 20 mars chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Est-ce que vous savez les thèmes? Si vous l'avez, merci de me les proposer. Et quel message donner à la population de la République démocratique du Congo en général?
Oui, demain 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et pour cette année, l'OMS a choisi le thème de « Une bouche heureuse, un corps heureux ». C'est pour faire comprendre à la population mondiale combien est-ce que le lien pour que la santé du corps soit bon, la bouche fait partie. Très souvent, si vous le regardez même dans le comportement général par rapport à l'hygiène, vous verrez que les gens prennent peu de temps pour brosser leurs dents et beaucoup trop de temps pour laver leur corps. Bon, c'est vrai que le corps est beaucoup plus vaste, mais les scientifiques même apprennent aux gens que la bouche contient beaucoup plus de microbes que les autres cavités du corps. Alors, c'est très important de prendre soin de la bouche. La manière de nettoyer la bouche, il y a toute toute une litanie d'informations sur ça, sur l'hygiène bucco-dentaire. On ne saura pas en parler tout de suite. Exactement. Mais tout ce que je peux dire à la population, c'est que en marge de ce 20 mars, il est très important de prendre soin de la bouche. La bouche, c'est la voie de communication, c'est la porte d'entrée. Tout ce que nous mangeons passe par la bouche. La communication la plus essentielle, c'est par la bouche. Quand vous avez des affections bucco-dentaires, des problèmes dans la bouche, ça entrave déjà beaucoup, beaucoup des choses que vous pouvez faire. Notamment, vous ne saurez peut-être pas manger comme il faut. Vous ne saurez pas communiquer avec les gens. Imaginez quelqu'un qui a eu une halitose, qu'on appelle généralement une mauvaise haleine. Mm-hmm. Ça gêne déjà sur le plan professionnel où les personnes n'auraient pas un contact, une communication assez fluide avec vos collègues et autres. Donc, c'est pour dire que la bouche, elle est petite, c'est vrai, mais elle est très, très, très importante parce que c'est une grande porte d'entrée du corps. Alors, il faut prendre soin de cela. Visiter un dentiste quand vous avez un problème dentaire au lieu de vous automédiquer ou bien d'aller voir un tradipraticien qui ferait des choses qui auront des répercussions plus tard pour ensuite venir voir un dentiste.
En tout cas, des très bons conseils, docteur Achère. La Radio Capi vous remercie pour vos contributions.
Merci beaucoup, monsieur Pascal.
Banaukapi.
Votre enfant suce le doigt. Quelles conséquences potentielles de cette habitude sur la communication de l'enfant, les signes d'alerte à surveiller et les stratégies à mettre en place pour aider l'enfant à se libérer de la succion du doigt? L'orthophoniste Jessica Ikieti nous éclaire sur cet aspect souvent méconnu de la succion du doigt. Les implications sur le développement de la parole et du langage. Jessica Ikieti et Kolingola s'entretient avec Jeff Opela.
Madame Jessica Ikieti et Kolingola, bonjour.
Bonjour.
Voilà, madame, aujourd'hui nous voulons savoir quand un enfant suce le doigt, comment les comprendre et agir. Et vous, en tant qu'orthophoniste, comment la scission du pouce peut-elle affecter le développement de la parole ou du langage de l'enfant?
Alors moi, je vais d'abord tenir compte de l'âge de l'enfant. C'est très important, en fait. On va dire, je vais regarder si l'enfant a déjà 4-5 ans ou s'il a... s'il a avant 4-5 ans ou s'il a au-delà de 4-5 ans. Parce que la succion du pouce, elle déforme surtout l'articulé dentaire. Donc beaucoup de gens pensent que la succion du pouce interfère sur le langage de façon générale, mais c'est pas tout à fait cela en fait. Ça influence, oui, le langage, mais quand je dis le langage, c'est se mettre à parler avec des phrases, etc. Ça peut influencer le langage, mais très peu en fait, ça influence surtout l'articulation des sons. Alors, comment agir? Donc, lorsqu'un enfant est un peu plus grand, c'est plus facile de lui expliquer pourquoi la succion du pouce, donc il doit éviter ça. Donc, on lui montre bien que ça peut déformer ses dents, ça peut déformer son palais, etc. Et lorsqu'un enfant est plus petit, on va essayer d'utiliser des moyens un petit peu plus palliatifs. Soit on met un pansement au bout du doigt, on peut mettre un gant, on peut aussi, bon, il y a des mamans qui mettent du pili-pili carrément, du piment.
Ouais, je vois.
On peut offrir un objet de substitution, un doudou, une peluche, etc.
Oui, madame, quels sont les signes d'alerte à surveiller?
Alors, si l'enfant, il est plus jeune, donc avant 4-5 ans, dans les signes d'alerte, je dirais que si on voit que la succion du pouce, elle est en lien aussi avec une baisse des interactions sociales. Interactions sociales, ça veut dire entrer en communication avec les uns et les autres. Si ça a un impact là-dessus, alors là, ça va vraiment être un signe d'alerte, en fait. Après, quand l'enfant est un petit peu plus grand, qu'il a 4 ans, si on voit qu'il articule pas les sons comme les autres enfants de son âge, alors là aussi, c'est un signe d'alerte. Et puis, donc, lorsque l'enfant est encore plus grand et qu'on voit que c'est que tout son articulé dentaire est déformé, alors là, c'est vraiment le signal qu'il doit aller chez l'orthodontiste parce que à ce moment-là, on met un appareil dentaire. Et on demande évidemment de ne plus sucer le pouce. Et d'autant plus que quand on suce le pouce, on place pas bien la langue dans la bouche. Et y a des enfants qui ont tendance à respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez, parce que c'est important de respirer par le nez. Quand on respire par le nez, ça aère l'oreille, etc. Donc, quand on suce le pouce, ça a un impact aussi sur les oreilles. On peut avoir un petit peu plus d'otite, qui s'appelle otite séreuse, voilà.
Et
qu'on respire pas par le nez.
Alors, comment aider cet enfant-là à arrêter ces genres de comportements?
Alors, en fonction de son âge, voilà, c'est ça que je disais. Donc s'il est plus grand, on lui explique clairement, on lui montre avec des dessins, des photos, pourquoi c'est pas bon de sucer le pouce, mais et on lui montre que ça a déjà un impact sur sa bouche, que ses dents ne se mettent pas bien, qu'il risque de pas avoir un joli sourire, etc. On lui explique tel quel en fait, et on le fait se déshabituer. Si l'enfant est plus jeune, là à ce moment-là, on est obligé de passer à un bandage parce que c'est la succion du pouce. En général, c'est la succion du pouce, mais il y a des enfants qui sucent d'autres doigts que le pouce.
Oui.
On met un bandage, on met le gant, comme je disais.
Oui, madame. Comment impliquer les parents dans ces processus?
Ah, je pense que lorsqu'on donne l'explication de toute façon à l'enfant, on le donne aussi aux parents. Et le parent, du coup, intervient surtout. On explique aux parents qu'il ne faut pas punir l'enfant. Faut pas avoir des mesures, on va dire, violentes. Il faut pas punir l'enfant. Il faut lui expliquer, en fait, et l'encourager. Alors, on peut aussi, comme moyen d'encouragement, c'est des petits smileys. Donc, si l'enfant n'a pas sucé son pouce sur la journée, il reçoit un petit smiley. À la fin, il a un petit cadeau. Mm-hmm. Il faut des moyens de renforcement positif.
Merci, madame. Un petit conseil aux parents.
Alors, j'ai oublié de dire aussi que lorsque l'enfant suce le pouce, ça fait partie des conseils aux parents, lorsque l'enfant suce le pouce, c'est qu'il sent la nécessité de sucer son pouce. Donc, pour les parents qui ont les moyens de le faire, il y a des professionnels qui s'appellent ostéopathes. Donc, on en a quelques-uns à Kinshasa. Je pense qu'il y en a deux ou trois à Kinshasa d'ostéopathes. C'est intéressant de consulter un ostéopathe qui va travailler sur les structures du corps. Et c'est des espèces de petits massages, on va dire. C'est pas tout à fait massage, mais voilà, travailler sur les structures du corps pour que l'enfant évite de sucer son pouce. Il y a aussi ça. Alors, le conseil aux parents, c'est surtout consulter des professionnels lorsqu'il y a un impact sur l'articulation, lorsque l'enfant il y a un impact sur son langage et qu'il n'entre pas en interaction, etc. Là aussi, c'est vraiment de consulter des professionnels et de consulter des orthophonistes, logopèdes orthophonistes notamment. Et il y en a plusieurs à Kinshasa. Je peux les citer. Hein. Mm-hmm. Il y a Papa Ikolele,
voilà.
Qui se trouve près de Willery. On a Roberta Kamanji, Jean-Luc Kanda, et puis il y a une nouvelle qui s'appelle Rana aussi, qui s'est installée sur Kinshasa.
Eh oui, madame Jessica Ikete et Kolengola, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Les auditeurs de Radio Okapi et les amoureux de Bana Okapi, nous avançons petit à petit vers la fin de notre magazine. Nous accueillons maintenant madame Léontine Sangangaji, psychologue et professeure à l'université de Kisangani. Elle va nous apporter son expertise sur les besoins psychologiques qui se cachent derrière la succion du doigt chez certains enfants. Au-delà des aspects physiques et dentaires, il est essentiel de comprendre les motivations profondes qui poussent les enfants à adopter ce comportement. La professeure Léontine Sangangaji s'est entretenue avec André Kitenge.
Professeur Léontine Sangangaji, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons aujourd'hui de la succion des doigts chez les enfants. Oui. Vous êtes psychologue, professeur à l'université de Kisangani. Quels sont les besoins psychologiques qui se cachent derrière la succion digitale?
Normalement, les besoins psychologiques, tous ces besoins tournent autour de la recherche de l'affection et tout vraiment, ça a un lien avec la théorie de l'attachement. Ouais. Vous voyez, lorsque un enfant vient au monde, l'enfant a besoin vraiment d'évoluer dans un bon cadre, hein, chargé de beaucoup d'affection. Et lorsqu'on parle de l'affection, on voit ces différents besoins ou demandes d'affection, demandes d'amour. Et lorsque l'enfant sent que les parents sont là aptes à répondre positivement, comme il se doit à ses différents besoins, il y a un attachement sécurisant. Et ça produit une forte estime de soi chez l'enfant qui lui permet de bien évoluer. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque l'enfant sent que chaque fois qu'il a besoin d'amour, chaque fois qu'il y a des demandes en termes d'amour, d'affection et qu'il n'y a pas de bonnes réponses, l'enfant développe une estime de soi qui n'est pas très forte, qui n'est pas bon pour le développement intérieur de sa personnalité. réalité. Et même s'il faut aussi regarder du côté de Sigmund Freud, avec sa théorie de psychanalyse, Freud nous dit que la sexualité se trouve chez tout le monde, à partir déjà de la petite enfance, à la naissance même, même s'il y a tout un débat autour de ça. Donc Freud donne une définition large de la sexualité qui est cet ensemble de processus vers la recherche du plaisir. Et c'est comme ça que lorsqu'un enfant naît, il y a déjà la première période, le stade oral. Pour le stade oral, il y a la sexualité, mais l'enfant qui éprouve du plaisir à partir de sa bouche, à partir de ses lèvres, en suçant quelque chose. Vous voyez déjà, vous parler de la succion du doigt. L'enfant, lorsqu'il suce, il a la joie, il a le plaisir. Et l'objet par excellence, c'est le sein maternel. C'est le sein maternel qui lie directement l'enfant à sa mère. Et lorsque il n'y a pas une bonne réponse par rapport à cette recherche de plaisir, il y a déjà des séquelles qui commencent. Donc un conflit, je dirais, intra-psychique avec des origines déjà à la petite enfance. Donc tous les problèmes commencent là-bas. Lorsque l'enfant n'évolue pas dans un bon milieu, là où il y a beaucoup d'affection à la langue, on peut voir ce comportement-là de sucer le pouce.
Donc, en plus bref, peut-on dire que c'est un manque d'affection qui pousse l'enfant à sucer ses doigts?
Écoutez, il y a plusieurs mobiles, plusieurs facteurs qui peuvent être à la base de ce comportement-là. Puisque nous disons qu'un comportement est surdéterminé, il y a plusieurs explications, mais une grande explication, c'est ce manque d'amour. Donc, il n'y a pas un attachement sécurisant chez l'enfant. L'enfant n'a pas trouvé quelqu'un qui lui a apporté beaucoup d'affection. Et la première personne chez qui l'enfant attend cette affection, c'est sa maman. Et donc, lorsque une maman ne remplit pas bien son rôle de donner de l'affection, de donner de l'amour à l'enfant, on peut s'attendre à ce comportement-là de sucer le doigt.
Alors, comment aider l'enfant à gérer ses émotions et à se détacher de cette habitude?
Donc, nous avons déjà tout dit. Hein. Donc, la première thérapie, c'est rassurer l'enfant sur le plan psychologique. C'est créer un cadre où l'enfant se sent accepté. C'est créer un cadre où l'enfant sent que c'est lui qui est au centre de tout. Et tous les regards, c'est sur lui. C'est ça l'égocentrisme, n'est-ce pas? Il faut que l'enfant sente que lorsqu'il pleure, il y a quelqu'un qui viendra pour écouter pourquoi il a pleuré. Lorsqu'il a besoin de manger, il y a quelqu'un qui viendra donner à manger. Lorsqu'il a besoin de marcher un tout petit peu, chez nous, des fois, on dit, attention, il ne faut pas beaucoup t'habituer à transporter l'enfant. C'est ça. Donc, non, il ne faut pas beaucoup habituer à transporter l'enfant. Il risque de s'habituer. Non. L'enfant a besoin de l'amour. Donnez-lui cet amour, bien sûr, tout en lui montrant que par moment on n'est pas disponible, il faut lui parler. Et par moment, alors on est disponible et on l'aime et à partir des actes concrets. Donc c'est vraiment important.
Tout à fait, très important. Professeur, quelles sont les erreurs à éviter en tant que parent?
Les erreurs à éviter en tant que parent, je vois d'abord ce qu'il faut faire lorsque vous allaitez l'enfant. C'est très important. Hein? Lorsque on allaite l'enfant, il faut que vous puissiez bien transporter. Je m'adresse aux parents. Hein. D'abord maman et puis papa aussi. Hein. Donc vous transportez très bien votre bébé, vous le regardez, vous lui parlez. Et vous tenez bien le sein maternel. Ça, c'est important. L'enfant va manger, va téter en vous regardant, en souriant. Vous ne savez pas quel bienfait ça fait dans sa personnalité. Et après ça, lorsque vous voulez sévrer l'enfant, ça signifie que vous voulez introduire un aliment solide dans son alimentation. Il faut savoir s'y prendre. Il y a des gens qui disent non, allons laisser l'enfant chez la grand-mère 3 jours ou 4 jours. Ce n'est pas bon. Puisque lorsque vous partez laisser l'enfant là-bas, l'enfant conclut qu'on ne m'aime plus. L'enfant va rester avec les grands-parents, ce qui n'est pas bien. Ou encore on dit nous allons appliquer quelque chose au goût amer, quinine ou je ne sais pas, ou même du piment.
Vous faites
du mal à l'enfant. Puisque l'enfant attend de vous de l'affection, de l'amour, ce qui goûte très bien. Le lait maternel a un goût sucré. Mais vous donnez quelque chose au goût amer. Vous faites du mal à l'enfant. Et il faut savoir que lorsqu'un enfant suce le doigt, c'est au fait une régression. Et lorsqu'on parle de régression, ça signifie qu'il y a des points de fixation. La notion de fixation, hein, ça signifie que l'enfant cherche à retrouver le plaisir qu'il devait avoir lorsqu'il tétait.
ou encore cherche à fuir les frustrations qu'il a rencontrées à ce moment-là. Donc ici, il faut bien allaiter l'enfant, il faut bien sevrer l'enfant. Et lorsque vous sevrez l'enfant, il faut aider l'enfant à comprendre que maintenant là, il ne va plus téter, mais il y a d'autres aliments très bons qui sont là. Et puis, rester à ses côtés pendant 2 jours ou 3 jours, qu'il sente qu'il est toujours aimé.
Dans ce cas, comment créer un environnement rassurant et sécurisant pour l'enfant?
Oui, vous avez raison. Merci vraiment pour cette question. Vous savez que pour le moment, il y a des jeunes gens qui croient que non, la vie, c'est juste lorsqu'il y a un coup de foudre. Hein, vous avez vu un ami de sexe opposé ou une amie, et il y a le coup de foudre et puis vous y allez comme ça. Non, la vie, surtout la vie de mariage, c'est quelque chose qui doit bien se préparer. C'est quelque chose qui doit vraiment très bien se préparer pour que vous puissiez bien comprendre qu'à la longue, vous devez assumer une parentalité responsable. Mais parentalité responsable, ça signifie quoi? Je me prépare à être parent. Ça signifie quoi? Je dois avoir des moyens pour accepter la grossesse, accepter l'enfant, nourrir l'enfant, éduquer l'enfant. C'est des responsabilités. Il faut vraiment que nous puissions accompagner les jeunes gens. Et nous qui sommes déjà dans le mariage, nous devons savoir accueillir les enfants et poser des actes en responsable. Puisqu'il y a de ces gens qui mettent au monde et qui se comportent comme des serpents. Ça signifie que, allez, sauve qui peut. Hein, sauve qui peut. Moi, j'ai mis au monde, c'est fini. Allez, tu vas te débrouiller. Et c'est comme ça qu'il y a la notion d'enfant des rues, enfant de la rue. Pour le moment, ils sont nombreux, hein. Mais que voulez-vous? Lorsqu'il y a un enfant, le grand remède pour qu'un enfant se développe très bien, c'est cette notion d'affection, en termes simples, l'amour.
Faut-il nécessairement aider l'enfant à arrêter de sucer le doigt ou avec l'âge va disparaître?
Il y a des méthodes, hein. Il y a des méthodes, mais ici j'insiste sur l'affection qu'il faut apporter à l'enfant. Mais aussi, il faut être tolérant. Voyez, hein, il faut être tolérant, puisque lorsque on connaît la cause à un problème et que on est patient, hein, on y apporte le vrai remède, avec le temps, ça peut disparaître. Donc, l'enfant peut-être continuer à sucer tout en sachant que c'est pas intéressant, hein, mais petit à petit, c'est comme ces enfants-là qui lui font pipi au lit. Vous voyez, des fois, c'est la réaction de l'entourage qui les frustre davantage. Vous voulez corriger l'enfant en criant devant tout le monde qui est azabololé, azab... Non, 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 non. Moi, je pense que ici, il y a des gens qui disent que vous pouvez peut-être mettre quelque chose... Avec l'accord de l'enfant, vous pouvez mettre quelque chose, par exemple... une figure, vous dessinez quelque chose. La quinine, c'est on dirait une punition, non? Mais ici, travailler avec l'enfant, hein, pour peut-être mettre quelque chose qui peut toujours l'aider à se rappeler que non, 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 ça c'est pas de la nourriture, ça c'est pas un bonbon, vous comprenez? Il y en a même qui disent que peut-être que à côté, vous pouvez placer quelque chose qu'il peut mettre dans la bouche, et lorsqu'il voit ça, il libère le pouce. Donc, il y a des méthodes comme ça, mais je vous dis, la grande méthode, c'est être disponible lorsque l'enfant a besoin de vous. Et lorsque l'enfant sent que vous êtes là pour lui, petit à petit, ses frustrations, ce sont des frustrations, c'est un conflit, hein. Intrapsychique. Lorsque l'enfant sent que vous êtes là pour lui, le conflit petit à petit pourra disparaître et l'enfant peut évoluer et s'épanouir comme il se doit.
Certains parents recourent aux punitions pour forcer l'enfant à arrêter cette habitude. Qu'en dites-vous?
Mais la punition, c'est parce que vous voyez juste, je dirais, la conséquence. Hein, hein. Vous ne voulez pas remédier au vrai problème. Ça signifie que le problème va demeurer. Vous allez punir pour, chercher à paraître responsable. Vous vous réveillez en retard. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est s'armer du courage et commencer à aimer l'enfant, commencer à soutenir l'enfant, commencer à prouver. D'ailleurs, l'enfant doit comprendre qu'il est accepté tel quel d'abord. Et puis travailler avec l'enfant pour qu'il comprenne petit à petit. Mais regarde, tu ne vois même pas que même le volume du doigt est différent par rapport au volume de l'autre doigt. Donc vraiment, il faut travailler avec l'enfant. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas une bonne pratique.
Professeur Léontine Sangangaji, merci.
Vraiment, merci beaucoup. Vous m'avez donné l'opportunité d'échanger sur cette affaire-là de scission de doigts. Merci vraiment.
Ce c'est ici que s'achève notre magazine des jeunes, des plus jeunes et des parents. Aujourd'hui, nous avons exploré en profondeur la succion du doigt, une habitude apaisante pour les enfants, mais qui peut avoir des conséquences sur leur développement. Nous avons entendu des témoignages poignants d'enfants et des parents, ainsi que les analyses et les conseils précieux de nos experts. Vous souhaitez réécouter cette intervention? Rendez-vous dès maintenant sur les sites de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous retrouvez l'intégralité de cette émission ainsi que toutes nos autres productions. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Banao Capi pour prolonger la discussion, partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, Pascal Tinamoula, Grâce à Vézolo, André Kitenge, Stanislas Diumi, Kelvin Bayeni, Greta Lulendo et Christelle Fritti. Un grand merci également à Christian Mapendanoyakris pour la coordination, à Jean-Marc Matokimofelele Dijano pour la supervision et à Mimi Kindou pour la mise en onde. Je suis Sarah Sombela, j'étais à la présentation. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Banao Capi.